Alors nous allons commencer par l'interview de Laurent Lémence, qui est normalement avec nous au téléphone. Donc on va vérifier. Laurent, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je confirme. Je vous entends bien.
Super. Parfait. Alors, Laurent, en fait, est l'ancien chanteur du groupe Kylie Moss, dont on a déjà diffusé des musiques dans l'émission. Et aujourd'hui, il a un nouveau projet dont il va nous parler. Et dans le cadre d'émission spéciale, la playlist de Libre à vous, dont je reparlerai plus tard, on a rediffusé des titres de Kylie Moss, et on s'est dit ça pourrait être intéressant de savoir pourquoi, qui se cache derrière ce groupe, le parcours, les raisons de la licence libre. Et donc on a contacté Laurent. Donc Laurent, comme je vous le dis, vous êtes l'ancien chanteur de Kylie Moss. Déjà, une première question avant qu'on parle de Kylie Moss, quel est votre parcours en quelques mots? Comment êtes-vous venu à la musique?
En fait, il faut savoir que je viens d'une famille, mon père était lui-même un musicien amateur accompli, ma mère était, sans être musicienne elle-même, était par contre une mélomane assez bien documenté aussi, donc j'ai grandi dans un milieu, j'ai grandi baigné par de la musique, et forcément à l'adolescence, c'est venu un peu tout seul, quoi, tout simplement.
D'accord. Alors, on va parler de Kylie Moss, mais pour donner une petite idée de style de cette musique à l'époque, je vais demander à William de nous diffuser une dizaine de secondes de Kylie Moss. Sommes à la taverne avec le vent coule à flot. Sachez pour votre gouverne qu'il n'y en a jamais trop. Il n'y a jamais trop là-bas, il n'y a jamais trop là-bas. Donc là, c'était un court extrait d'un titre qui s'appelle « Quand on est à la taverne », que vous pourrez retrouver aussi sur causecommune.fm dans l'émission de la playlist « Le libre à vous », celle de la semaine dernière. Et évidemment, je donnerai tout à l'heure les références complètes pour retrouver les autres titres de Kylie Moss. Donc là, c'est juste une petite idée et donc de ce que faisait Kylie Moss. Alors, quand ça a été créé, quand vous faisiez ça à titre professionnel ou personnel, racontez-nous un petit peu cette aventure de Kylie Moss.
Alors, Kylie Moss a commencé en 1994 dans la petite ville belge de Namur, au confluent de la Sambre et de la Meuse. On était une bande de potes qui avaient envie de faire de la musique ensemble. On avait un goût commun pour la musique folk en général, et plus exactement le folk celtique. Donc au début, on était un groupe assez trad-trad de folk celtique irlandais. Puis petit à petit, on a commencé à rajouter d'autres éléments, des éléments de folk, par exemple de Scandinavie, de Flandre, d'Europe de l'Est, de musique médiévale. De blues aussi, voilà, ça a fini par donner une mixture. Pour faire court, on avait coutume de dire que Kylie Moss c'était un peu moins 50% Pogues, 50% Louise Attaque. Voilà, c'était un groupe semi-amateur, semi-professionnel, dans la mesure où on jouait quand même pas mal, on essayait d'être aussi pro que possible, mais par contre ça n'a jamais été notre métier, on n'a jamais eu l'ambition de le faire. Le groupe se composait de 6 personnes, parmi lesquels il y avait par exemple un prof de langue dans l'enseignement secondaire, un éducateur dans un collège, moi-même je suis fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, on avait aussi un informaticien, un ingénieur industriel, et voilà. Donc on avait tous un job à côté, mais on s'est bien marré tout en essayant de faire le taf sérieusement. Donc le groupe a joué quand même jusqu'en 2015, et on a fait, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais ça doit être aux alentours des 250 concerts un peu partout en Belgique, de temps en temps dans le nord de la France, dans les Pays-Bas et dans le Grand-Duché de Luxembourg. On a bien roulé notre bosse et on s'est bien marré, puis un jour, ça s'est terminé pour des raisons liées à la difficulté grandissante, disons, avec les enfants qui arrivent, le développement professionnel, etc., de concilier les agendas et aussi... le fait qu'il y avait toujours eu un peu une dichotomie entre une partie du groupe pour qui c'était vraiment juste un hobby, un truc qu'on faisait le week-end, et d'autres qui, toujours sans vouloir vraiment devenir musicien professionnel, voulaient quand même y consacrer plus de temps, plus d'énergie, plus d'investissement en temps, en matériel aussi. Et à un moment, voilà, on a fini par se séparer, bons amis. On continue, certains continuent de faire de la musique, d'autres ont arrêté pour des raisons diverses et variées.
Alors une vingtaine d'années, effectivement, on va revenir après sur les nouveaux projets, mais donc 20 ans quand même, environ 250 concerts, donc ça fait quand même pas mal de concerts par an. Qui écrivait en fait les textes et la musique? Est-ce que c'était collectif? Est-ce que c'était uniquement l'une des personnes membres du groupe?
C'était plutôt collectif, mais en général ça se passait avec un des membres qui venait avec une mélodie ou une suite d'accords. Parfois traditionnel, parfois de sa propre composition. et on jammait ensemble jusqu'à ce que ça finisse par trouver des accords, des rythmes de batterie, etc., des paroles qui collaient. Donc c'était un processus qui pouvait parfois prendre un certain temps, parce que voilà, quand on est dans le collectif pur et qu'il n'y a pas vraiment un leadership déclaré, voilà, ça peut prendre un certain temps pour la composition, mais c'était une manière qui, nous, en tout cas, nous convenait bien, nous plaisait, et parce que finalement, le plaisir, on le prenait aussi dans la création de la musique et pas seulement dans le produit fini.
D'accord. Et l'une des caractéristiques, alors nous, dans l'émission, on diffuse des pauses musicales, donc de la musique, mais un des choix, c'est de prendre des musiques qui sont uniquement diffusées sous licence libre, et notamment qui autorisent la réutilisation commerciale ou les modifications. Est-ce que le choix de la licence libre, alors Kalimos était sous licence Creative Commons Attribution, donc CC BY, est-ce que le choix de cette licence libre a été quelque chose de naturel? Est-ce qu'à l'époque, est-ce que c'est dès le départ le choix? Parce que 1994, de mémoire, ces licences d'ailleurs n'existaient pas, parce que je crois que c'est des années 2000, les licences Creative Commons. Donc, est-ce que c'est venu rapidement? Qui a proposé ça? Et finalement, pourquoi avoir choisi la diffusion sous licence libre?
Alors, ça ne s'est pas imposé tout de suite, puisque pendant les 2-3 premières années, on jouait vraiment presque exclusivement des traditionnels dans 2-3 cafés à Namur et dans les environs. Donc, à l'époque, la question ne nous intéressait pas vraiment. Mais dès qu'on a commencé à sortir un peu de notre zone de confort, oui, le choix s'est fait naturellement, parce qu'il était pour nous très clair qu'on n'avait aucune envie de s'affilier à la SABAM, donc la SACEM belge, qui à nos yeux était non seulement une bande de parasites qui sert surtout à faire rentrer beaucoup d'argent et il y a très très peu qui sort, mais en plus les conditions d'inscription à la SABAM sont extrêmement contraignantes, beaucoup de règles qui s'imposent. Par exemple, vous ne pouvez pas, une fois que vous êtes inscrit à la SABAM, vous êtes obligé d'y déposer tout ce que vous publiez. Si vous avez envie un jour de faire don des droits d'un morceau à une association ou à une cause qui vous tient à cœur, eh ben c'est pas possible, c'est interdit. Dès l'instant où vous êtes membre de la SABAM, vous devenez, pour ainsi dire, la propriété de la SABAM et votre œuvre aussi. Donc du coup, on s'est cherché une solution alternative, parce qu'on avait quand même envie de se prémunir contre d'éventuelles malveillances. On avait eu un collègue qui avait eu une mauvaise surprise de voir une chanson à lui volé en quelque sorte par quelqu'un d'autre qui a prétendu que c'était lui qui l'avait composé et qui ensuite a exigé des dommages et intérêts. Bon, ça s'est bien terminé pour lui parce qu'il a pu prouver par d'autres manières qu'il y avait bien une tentative d'arnaque. Mais donc voilà, à partir du moment surtout où on s'est mis à faire des compositions personnelles, il nous semblait clair qu'il nous fallait quand même un moyen de faire valoir nos droits si jamais il y avait contestation, si jamais il y avait tentative de malversation. Et le choix des licences libres correspondait non seulement à ce dont on avait besoin, avait la souplesse nécessaire pour ne pas nous embarquer dans un schéma rigide style SABAM, et en plus de ça correspondait assez bien à notre philosophie générale, qui était déjà assez orientée vers le libre, vers l'indépendance et vers l'autogestion. Ouais. C'est un choix qui s'est imposé assez, très, très facilement. On n'a pas tourné autour du pot 3 heures là-dessus. C'est moi qui suis venu avec l'idée. Donc, l'un des membres, le claviériste du groupe, est toujours d'ailleurs informaticien, donc il s'est un peu renseigné plus avant. Il nous a éclairé notre lanterne là-dessus. Et voilà, après, c'était très clair pour tout le monde. Ça n'a jamais fait l'objet de discussion ou de contestation.
Ok, bah, voilà. Merci pour l'explication. Alors là, on a parlé un peu de Kalimos. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, le groupe s'est séparé donc en 2015. Aujourd'hui, vous avez un nouveau projet donc de musique qui s'appelle The Imaginary Suitcase, toujours disponible sous licence libre. Est-ce que c'est le même style de musique? Est-ce que vous êtes tout seul maintenant ou est-ce que c'est un groupe?
Alors, Imaginary Suitcase, oui, c'est un projet que j'ai lancé en solo, façon, comment on dit, singer-songwriter, donc en gros un gars tout seul avec sa guitare acoustique. non, ne vous enfuyez pas, c'est pas si mal que ça. Et oui, je fonctionne toujours, donc dans ce projet-là, je fonctionne toujours sur le même principe, des licences libres, et pour exactement les mêmes raisons, la souplesse, l'adaptabilité, et puis aussi le manque d'envie, pour rester poli, de me retrouver pieds et poings liés par une grosse structure, qu'elle soit commerciale ou administrative. Imaginary Suitcase, musicalement, c'est assez différent de Kalimos. Effectivement, quand on est tout seul, c'est difficile. Quand on est tout seul avec une voix, une guitare acoustique et de temps en temps un peu d'harmonica, on va évidemment pas sonner pareil qu'un groupe avec une batterie, une cornemuse et une guitare électrique. Donc, là, toujours pour rester un peu dans le même type de définition simple que je vous avais donné tout à l'heure avec Kalimos, on pourrait dire que c'est un peu la rencontre. Quelqu'un dans un blog avait un jour écrit que Imaginary Suitcase, ça sonnerait un peu comme si Leonard Cohen et Suzanne Vega avaient eu un fils ensemble, ce qui est ce qui m'a un peu laissé sur le cul, parce que pour moi c'est un énorme compliment, parce que c'est deux musiciens que j'admire énormément.
Ce sont deux belles références, oui.
Donc oui, c'est plus... Ouais, c'est waouh. Rien que de le dire, j'en ai encore, j'en ai le rouge aux joues. Et voilà. Donc oui, c'est une musique plus mélancolique, quoique de temps en temps plus énervée quand même. Voilà. Donc si vous aimez bien des gens comme Joseph Arthur, Devendra Banhart, Leonard Cohen, Suzanne Vega, Nidhi Franco, c'est le genre de musique qui pourrait vous plaire.
Juste après la fin de l'interview, là, avec mes dernières questions, on écoutera un morceau effectivement de ce nouveau projet en solo. Je donne tout de suite le site web pour les personnes qui pourraient être intéressées. Donc c'est theimaginarysuitcase.be. Donc theimaginarysuitcase est tout attaché, mais vous retrouverez également les références sur le site de causecommune.fm, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a des actus côté du projet, ou des annonces à faire, ou un message à faire passer, peut-être tout simplement?
Alors concrètement, en ce qui me concerne, moi, ma petite personne, pour l'instant, vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de concerts pour les raisons que j'ai pas besoin d'expliquer, je suppose, je m'amuse à poster, comme beaucoup de musiciens font en ce moment, hein, je trouve que c'est une initiative sympa, je poste des petites vidéos dans mon salon ou dans mon local de répète, sur la page Facebook. Bah ouais, malgré tout, hein. Facebook c'est de la merde, mais quand on est totalement indépendant, faut bien reconnaître que c'est un outil assez pratique quand on sait l'utiliser avec à bon escient. Et sinon, il y a des concerts, probablement surtout en Belgique, mais je travaille. S'il y a des gens en France que ça intéresse, hein, moi je suis toujours dispo. Hein, je suis toujours dispo. Je peux sauter dans un train. Je prends pas cher. Je prends pas beaucoup de place. Donc moi, ça m'intéresserait évidemment de jouer en France dès que ce sera de nouveau possible. Donc, avis aux amateurs. Sinon, il y a quelques concerts en juillet, août, septembre, octobre, hein, on touche du bois, pour que ça aille mieux d'ici là, parce que là maintenant franchement plus rien n'est sûr. Mais voilà, donc en attendant, je m'occupe comme je peux sur internet, et il y a, je l'espère, un album qui devrait sortir à l'automne, en octobre, novembre, en autoproduction. Oui, toujours cette même obsession de l'indépendance et de l'autonomie, n'est-ce pas?
Bah écoutez, c'est super en tout cas. Donc effectivement, dès que le monde sera sorti du confinement, on pourra aller vous voir en concert. Donc je rappelle, le site web, c'est theimaginarysuitcase.be. Et on va écouter, donc pour se quitter, un extrait qu'on a choisi ensemble, hein, qui s'appelle Plastique. Et en tout cas, je vous remercie en tout cas pour toutes ces belles musiques clips que vous faites. Et puis j'espère avoir l'occasion effectivement de vous voir un jour en concert en France. Donc c'était Laurent
Lemos,
Kyle Lemos. J'espère aussi, ouais. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée, et on va écouter donc Plastique, donc par Laurent Lemos, The Imaginary Suitcase, et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Fake. Is there one thing in this world that is not made of plastic? Is there one thing in this life that is not fake? Well, if someone has found one, I'd like to get my hands on it. 'Cause we've lost our sense of freedom. It is now on sale on Amazon, along with all the things we used to hold dear. We have lost our sense of freedom. It is now on sale on Amazon, and we smile as we pay the price to get in here. Is there one thing they were saying that ain't no lie? Is there one thing left around that money cannot buy? Did they leave a single meadow not defiled? Or is this the final victory of the money-sucking junkies? We have lost our sense of freedom. It is now on sale on Amazon, along with all the things we used to hold dear. We have lost all sense and wisdom. They are now on sale on Amazon, and we smile as we pay the price to get it near. Get it near. Amazon.